Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Pas de panique, les phares d'essai appuyés par la force de la SADC ont repoussé l'ennemi au-delà de la cité de Saki au nord Kivu, ce alors que certaines rumeurs annonçaient l'occupation de Saki par la rébellion. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU appelle le M23 à cesser immédiatement son offensive et de son côté, le président Tshisekedi a tenu une réunion de crise la nuit dernière. Des cas d'arnaque signalés dans l'enceinte du fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC Frivao. Le Frivao exhorte les victimes en attente d'indemnisation à la vigilance. Vous entendrez un responsable de cette organisation. Et puis, la date du 20 janvier est passée. Il était prévu la cérémonie traditionnelle de réconciliation entre les communautés Mbole et Lengola en conflit dans la Tchopo. Le délai était court pour les préparatifs, explique le ministre provincial de l'Intérieur, Roger Ekongo, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Les FARDC, appuyés par la force de la SADC, ont repoussé l'ennemi au-delà de la cité de Saké. Nous sommes à 27 kilomètres au sud-ouest de la ville de Goma, siège des institutions provinciales du Nord Kivu. C'est ce qu'a rapporté hier une dépêche de l'agence congolaise de presse ACP qui cite la cellule de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Alors que certaines rumeurs annonçaient l'occupation de la cité de Saké par la rébellion, les services de communication du gouverneur note que le chef de l'exécutif provincial était au front. Le gouverneur du Nord Kivu a tenu à démentir aussi les rumeurs concernant sa possible fuite de la ville de Goma vers d'autres coins sécurisés, ajoute son service de communication. Entre-temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu la nuit de ce jeudi une réunion de crise autour de la première ministre Judith Suminwa ainsi que les ministres de l'Intérieur et celui de la Défense. C'est en prélude de la tenue ce vendredi du Conseil supérieur de la défense et de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Ces deux réunions vont tabler au premier plan sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu et particulièrement autour de la ville de Goma, signale une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la République. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU appelle les rebelles du M23 à cesser immédiatement leur offensive et à se retirer de toutes les zones occupées, ce dans le respect de l'accord du cessez-le-feu du 31 juillet dernier. Il a lancé cet appel dans un communiqué parvenu jeudi à Radio Okapi. Antonio Guterres plaide ainsi pour le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Plus de détails avec Blaise Ndongala Maenda.
Dans ses communiqués rédigés depuis New York, le secrétaire général des Nations Unies condamne avec la plus grande fermeté la nouvelle offensive lancée par les M23 depuis le début de cette année et son extension au nord et au sud Kivu. Antonio Guterres a ainsi recommandé à tous les acteurs de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC en mettant fin à toute forme de soutien aux groupes armés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Il a également réaffirmé son soutien indéfectible aux efforts de paix déployés par le président angolais João Lourenço pour désamorcer les tensions entre Kinshasa et Kigali. Le secrétaire général de l'ONU a cependant exhorté les partis à rester engagés dans les processus de Luanda et à maintenir l'élan vers la neutralisation des FDLR et les retraits des forces rwandaises, ainsi que vers l'opérationnalisation rapide du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Il a en outre plaidé pour l'accès sans entrave aux populations ayant besoin d'une aide humanitaire en respectant les caractères civils des sites des personnes déplacées à l'intérieur de la RDC. Antonio Guterres a par ailleurs réaffirmé la détermination de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat de protection des civils.
Et face à la situation sécuritaire qui prévaut à Saké et dans les environs de Goma au nord Kivu, le commandant intérimaire des forces de la MONUSCO rassure quant à la collaboration entre les FARDC, la MONUSCO et la force de la SADC pour protéger les civils et défendre la ville de Goma ainsi que la cité de Saké face aux attaques des rebelles du M23. Le général Kar Diouf précise qu'à cet instant, les trois forces veillent à ce que les points clés soient sécurisés. Il est au micro de Martial Papimukeba.
La situation sécuritaire au niveau de Goma et de Saké est dense, mais sous contrôle. Comme vous le savez, il y a eu une poussée de l'ennemi du côté de Moubambiro et nous, avec l'ensemble des moyens disponibles sur le terrain, nous avons activé l'opération Springbok qui ne date pas d'aujourd'hui, mais bien de quelques mois avant. Les mesures prises, c'est des mesures prises en collaboration et en coopération avec les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, à côté d'un Sami Darcy, de faire face à toutes les éventualités. Nous sommes dans une collaboration aussi bien dans la planification, dans la conduite des opérations, que, si vous voulez, dans le suivi des opérations. Aujourd'hui, une situation particulière à Sake et aux environs de Goma est en cours. Nous avons renforcé cette collaboration pour s'assurer que les points clés sont tenus et pour assurer la défense de Sake et de Goma. La priorité, c'est la protection des populations. C'est sur quoi nous nous attelons et nous ne lâcherons rien.
Entre-temps, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, appelle la population de Goma et des environs au calme et à la mobilisation pour soutenir les FARDC. Julien Paluku a lancé cet appel hier après une panique observée dans la ville de Goma due à l'intensification des combats entre l'armée et les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda pour le contrôle de la cité de Sake. D'après lui, la République s'organise pour bouter l'ennemi hors du pays. Julien Paluku, joint par Martial Papimukeba.
J'ai fait cet appel pour appeler à la solidarité de toute la population envers les forces armées. Parce que des moments comme ceci, on les a traversés. La population de Goma se rappellera que le 29 octobre 2008, nous avons connu la même situation. La population se rappellera également que le 20 novembre 2012, nous avons connu la même situation. Eh bien, la République n'a jamais capitulé. Je voudrais donc appeler tout le monde à la cohésion. Ne cédez pas au discours de division. Mobilisons-nous comme c'était à l'époque, qui avec son carton de biscuits, qui avec sa bouteille d'eau, qui avec sa boîte de sardines, pour que nous puissions soutenir nos forces armées afin de bouter dehors l'ennemi. La République ne pleurniche pas, la République s'organise et ce qui est en train d'être fait maintenant. La population donc est appelée à soutenir son armée parce que c'est la seule armée que nous avons. Nous n'aurons pas une autre armée si ce n'est celle-là qui défend l'intégrité du territoire.
Rendons-nous en Ituri. Le comité des déplacés du site de Lindji dans le territoire de Djougou demande aux humanitaires de renforcer leur appui aux sinistrés qui vivent dans des conditions précaires. Ils ont formulé cette demande hier au coordonnateur résident et coordonnateur des affaires humanitaires. Bruno Lemarquis s'est rendu à Igabarrière, 25 km de Bounia. Le but de sa mission dans cette zone affectée par les conflits armés était de s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire des milliers de déplacés disséminés dans cette entité. Ezekiel Mouzalia, reportage.
Des notables chefs coutumiers ainsi que des acteurs de la société civile de la chefferie de Bayema Bagourou ont exprimé leur vive préoccupation face à la dégradation de la situation humanitaire dans les territoires des Djougou. C'était au cours de la visite du coordonnateur résident et coordonnateur des affaires humanitaires Bruno Lemarquis dans les sites des déplacés de Lindji qui abritent plus de 6000 personnes. Ces dernières vivent dans des conditions difficiles, pas de nourriture, des soins médicaux, d'eau potable et des abris vétustes. Certains déplacés, dont des femmes et des enfants, vont puiser des l'eau loin de leur camp, ce qui les expose aux embuscades des hommes armés. Face à ces tableaux sombres, la coordination de la société civile demande au coordonnateur des affaires humanitaires de plaider auprès du gouvernement pour le renforcement des effectifs des militaires et policiers afin de garantir la sécurité des civils dans cette zone. De son côté, Bruno Lemarquis dit prendre en compte ses recommandations et promet de faire le plaidoyer auprès des partenaires du gouvernement pour améliorer l'assistance humanitaire aux déplacés dans cette zone. Bounia, Ezekiel Mouzali, Radio Okapi.
Du côté du Congo central, la population de la commune de Nzanza à Matadi dénonce la recrudescence du banditisme urbain appelé Kuluna. Selon elle, ces bandits opèrent en grand nombre avec des armes et des armes à feu et des machettes. Ils volent, blessent et violent des femmes. La bourgmestre de Nzanza confirme les faits et demande au maire de Matadi de réquisitionner les éléments de la police militaire pour appuyer la police dans la traque de ces bandits. Nana Plurich Mambo.
Le dernier camp en date a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi au quartier Kambanana. Selon des témoins, il s'agissait d'un groupe de bandits munis d'armes à feu, des gaz lacrymogènes et des machettes qui ont tiré plusieurs coups de feu en l'air lors de l'attaque du domicile d'un commerçant. Après leur forfait, ils ont pris la fuite sans être inquiétés. Pour sa part, la bourgmestre de Nzanza sollicite un renfort en police militaire. Nana Esther Mazomba.
Il y a vraiment eu des inciviques, appelés communément les Kuluna, qui ont saccagé et sont venus avec des munitions. Ils ont commencé par le quartier Banana, ils sont allés vers Kitome Salaba et même au quartier Nzanza. C'était nombreux. La police, l'effectif que nous avons au niveau de la commune n'arriverait pas à faire face à ces inciviques parce que vu leur nombre et tout ce qu'ils avaient comme munitions.
Signalons qu'en début de cette même semaine, une voiture de la police a été brûlée au rond-point Nzanza par ces mêmes bandits. Matadi, Nana Plirish Mambu, Radio Okapi.
Direction la province de la Tchopo, je vous l'ai dit dans les titres, des cas d'arnaque signalés dans l'enceinte du fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, Frivao en sigle. Une dizaine de cas sont rapportés depuis septembre dernier. Mercredi, deux jeunes ont été appréhendés, la main dans le sac. Ils sont mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Le Frivao, qui révèle ces cas de fraude, exhorte les victimes en attente d'indemnisation à la vigilance pour ne pas tomber dans les mailles des filets de ces inciviques. Le secrétaire rapporteur intérimaire de Frivao leur demande également de faire preuve de patience. Clémence Kalibunji est au micro de Jacques Moukonkole.
Il y a une dizaine de personnes qui sont déférées devant les parquets dont la procédure est déjà en cours. Nous continuons à enregistrer quelques cas isolés comme ça que nous saisissons et que nous déférons directement devant les juridictions compétentes. Aux victimes d'abord de Kisangani, le processus a vraiment évolué, qu'ils continuent à faire confiance au travail qui est en train d'être fait par la coordination de Frivao en vue de leur faire bénéficier de leur indemnisation proprement dite. Ceux qui attendent encore l'opération d'identification jusqu'à l'indemnisation proprement dite, d'être patiente. Frivao est en train d'exécuter son plan dans toutes ces entités-là où nous allons nous déployer pour procéder à l'identification proprement dite des victimes. Donc, qu'elle soit patiente et qu'elle ne se laisse pas arnaquer par des personnes qui vont se faire au nom de Frivao. Frivao, en se déployant dans ces entités, ils seront informés à temps réel et d'une manière officielle sans procéder justement à leur faire arnaquer. L'opération d'indemnisation est gratuite du début jusqu'à la fin.
La cour d'appel du Kwilu, faisant office de cour administrative, s'est prononcée sur les contentieux électoraux législatives provinciales reprises dans la circonscription électorale de Massima Nimba. Dans ses arrêts, elle rejette toutes les requêtes qui ont été introduites en contestation de certains résultats provisoires publiés par la CENI. Par conséquent, la cour confirme les résultats de la CENI pour cette circonscription, sujet de satisfaction pour Maître Yoli Tayala, avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui a plaidé en faveur du candidat Eric Muziazia. Maître Yoli est au micro de Irène Boma.
La cour, telle qu'elle est là, a fait son travail. Je sais qu'on fustige parfois la justice, mais les juges existent. C'est le cas de la cour d'appel du Kwilu. La cour d'appel du Kwilu a staqué sur nos moyens que nous avons pensé préalablement, comme j'avais donné ma langue, pour dire que les moyens sont totalement patents que les juges ne peuvent pas passer outre. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous sommes totalement très joyeux et satisfaits du travail abattu par la cour d'appel. La décision de la cour sur tous les dossiers qui étaient pendants devant elle, il y en avait 8, si je ne m'abuse pas. 7 dossiers déclarés irrécevables et un dossier déclaré recevable mais non fondé pour insuffisance de preuves.
Et sont confirmés députés provinciaux élus de Massima Nimba, Blanchard Malutama, Donald Sindani, Urbain Kiosa, Trifon Kinkei Mulumba, Félicien Lupemba, Kika Tangima, Eric Muziazia et Philibert Mabaya. Autre nouvelle, le service national relance en ce début d'année sa caravane de distribution gratuite des bancs dans les écoles et universités publiques de la RDC. Hier, 300 bancs pupitres ont été livrés à l'Institut technique et industriel Itinjili et 300 autres à l'Institut technique et commercial Baoumbou de Matete. Selon le commandant du service national, cette opération commencée l'année dernière est une réponse aux recommandations du président de la République. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik promet de poursuivre la distribution des bancs dans d'autres écoles et universités de Kinshasa ainsi que des provinces. On l'écoute au micro d'Alain Rongmouchinj.
En tant que parent, c'est un sentiment de bonheur que je ressens, mais en tant que commandant du service national, c'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui consistait premièrement à encadrer ceux-là que nous avons encadrés qu'ils ont produit un travail et le travail s'est fait sentir parmi nos enfants qui sont heureux de voir que les bancs sont mis à leur disposition pour bien suivre les enseignements. Et tant que les missions du service national n'auront pas changé, nous allons continuer à doter les écoles de bancs. C'est une instruction permanente de la part du chef de l'État et du commandant suprême. Nos ateliers sont en train de produire le banc et je profite de cette occasion pour vous annoncer que dans la ville-province de Kinshasa, à partir de ce mois, chaque semaine, nous aurons au moins adopté 4 écoles en banc. Nous l'avons fait aujourd'hui, demain, nous aurons une autre opération. Si pas le samedi, le lundi, nous allons passer dans d'autres écoles, mais aussi dans les institutions d'enseignement supérieur.
Actualité internationale.
Le Niger, le Mali et le Burkina Faso annoncent la création imminente d'une force unifiée de 5000 soldats pour lutter contre les djihadistes. Cette initiative dévoilée cette semaine par le ministre nigérien de la Défense s'inscrit dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel formée en 2022 après des ruptures avec la France et la CEDEAO.
L'invité.
La cérémonie traditionnelle de réconciliation entre les communautés Mbole et Lingola dans la Tchopo n'a pas été organisée le 20 janvier courant, comme initialement décidé par le Forum de paix et de réconciliation, forum organisé à Kisangani du 17 au 19 décembre dernier. Qu'est-ce qui explique ce rendez-vous manqué? Réponse avec notre invité, Roger Ekongo, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la Tchopo. Il est avec Jacques Moukonkole.
Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, bonjour.
Bonjour.
La date du 20 est passée, qui avait été fixée pour la cérémonie coutumière entre les communautés en conflit, Mbole et Lingola. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Effectivement, comme vous dites, la date du 20 janvier est passée. Au regard du rapport qui a été établi par la commission mixte du gouvernement central et le gouvernement provincial, il était question qu'on puisse répartir des responsabilités et des tâches.
Et comment ça a été fait?
Pour nous, au niveau du gouvernement provincial. En ce délai-là, vous voyez, la commission préparatoire a fini son travail pratique le 11. Pour arriver au 20, les délais étaient assez courts, voyez-vous. Il était question pour la province ici, pour le gouvernement provincial, de procéder très vite à l'aménagement du site et à l'entretien du site qui était choisi, notamment l'agglomération de Osio. On devait aussi procéder à l'entretien du tronçon entre le Bunga et Osio. Mais également, on devait aussi renforcer la sensibilisation au niveau de la ville et au niveau des communautés parties prenantes pour que les gens puissent être sensibilisés par rapport à cet événement important. Il était question aussi de mettre sur pied un dispositif du protocole de façon à concevoir le programme ainsi que les contenus de la journée ou rituel aura lieu. On est en train de travailler sur ça.
Êtes-vous en contact avec le cabinet du VPM de l'Intérieur?
Tout récemment ici, on venait de recevoir les télégrammes de son excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour que nous puissions réévaluer l'engagement que nous avons pris au début du mois pour que finalement qu'on puisse fixer une date réaliste et qui va permettre à ce que ces rituels, la réconciliation entre les deux communautés Mbole et Lingola puissent avoir lieu. Je crois qu'on est en train de travailler sur ça.
Et monsieur le ministre, on aurait dû prendre des dispositions bien avant pour que la date soit respectée, parce que cette date avait été fixée lors du forum de paix et de réconciliation.
Ça s'est coïncidé avec l'agenda de l'autorité provinciale ici. Alors, bien que c'est là, mais l'équipe qui l'a laissé sur place est en train de travailler. Je crois que nous aurons une grande rencontre où ceux de la commission ainsi que le service, nous allons nous retrouver au cabinet de son excellence monsieur le gouverneur pour qu'on puisse réactiver faisant suite en fait à la demande de son excellence monsieur le VPM de façon que cette fois-ci, une fois si nous réévaluons les tâches à faire, on arrivera à une date et nous allons communiquer ça à l'autorité hiérarchique à Kinshasa.
Monsieur le ministre, sait-on aujourd'hui qui parmi les chefs devra participer à ce rituel?
Nous avons demandé aux autorités traditionnelles des deux territoires, notamment au Bundu et au Pala, de nous envoyer la liste, n'est-ce pas, des chefs coutumiers reconnus pour que nous puissions lancer les invitations. Donc, le processus est déjà enclenché. Je crois que il est question seulement de patienter quelques 48 heures ou 72 heures pour que finalement la date définitive soit fixée.
Est-ce que la population est prête aujourd'hui à accueillir cette cérémonie?
Oui, Oui, depuis les forums, je pense que si on a tenu les forums, c'est que finalement, les communautés qui étaient d'abord en conflit avaient compris la nécessité de faire la paix et de revenir à une cohabitation pacifique. Et donc, il est question pour nous, au niveau de la province, de renforcer cette sensibilisation en associant les responsables des communautés ainsi que les autres leaders pour que finalement, les messages de la paix et de la réconciliation, du pardon et de la vie en commun puissent arriver au fin fond du territoire d'Opala et le territoire d'Ubundu. Et que finalement, lorsque nous allons arriver à ces rituels de réconciliation, après qu'on apprenne plus que non, il y a eu des atrocités ou il y a eu des problèmes par-ci, par-là.
Monsieur le ministre, il avait été dit au forum que avant la cérémonie de réconciliation, les déplacés qui se trouvent à Kisangani devaient être pris en charge. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Oui, au niveau de la commission, on va sélectionner un échantillon pour symboliser les retours. Parce que, vous savez, messieurs les journalistes, les retours de ces familles, de ce ménage, ne va pas se faire à travers seulement une simple déclaration. Il faut préparer une trousse. Et donc, nous sommes mis d'accord avec le gouvernement central pour que un échantillon par site soit sélectionné pour que on disponibilise les trousses de retour des déplacés. Une fois si cette première étape de retour se réalise, finalement, on pourra voir comment amorcer les retours progressifs de nos compatriotes dans leurs milieux d'origine.
Monsieur le ministre, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.